VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Biron, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Un magistrat, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire, a été élu lundi président de la nouvelle commission électorale, la CEU. C'est cette commission qui devra organiser la présidentielle de 2020, alors que l'opposition, elle, continue à protester contre ce nouvel organisme. Ibrahim Koulibaly Kubiert, élu pour 6 ans, non renouvelable, succède donc à Youssouf Bakayoko, le président de la précédente CEI, qui symbolisait l'élection controversée de 2010-2011. Au Burkina Faso, on assiste depuis samedi à un mouvement de population de plusieurs villages du nord vers la ville de Kongoussi. Ces populations ont pris la fuite suite à une série d'attaques ciblées dans la région, attaques qui ont fait au moins 26 civils tués, selon les médias locaux. Parmi les personnes qui ont fui leur village, Bruno Ouedraogo, âgé de 30 ans, joint par Bagasikoura à Kongoussi, il explique d'abord pourquoi lui et ses proches ont dû fuir.
Il y a eu des attaques terroristes samedi. On a eu fait depuis un mois. On s'est déplacé pour venir à Kongoussi. C'est le village de Kongoussi qui a été attaqué. C'était aux environs de 6 heures, en tout cas au petit matin. Et puis, bon, les gens ont pris peur, ils ont tué des gens. D'autres, en tout cas, ont pu quand même fuir, se casser dans les champs et autres. Là. Et puis, bon, après ça, les gens, en tout cas, ont tué bagages pour venir vers Kongoussi.
Quand vous dites les gens, on parle de combien de personnes?
C'est des milliers, hein, des milliers de personnes.
Et vous, vous êtes venu seul?
Nous sommes venus avec la famille, les enfants, les parents et puis moi, les grands-parents.
Et vous avez combien d'enfants avec vous là-bas?
3 enfants.
Et ça vous a pris combien de temps? Ça fait combien de kilomètres entre Zimtenga et Kongoussi?
Zimtenga et Kongoussi, en tout cas, ça fait autour de 20-25. Et le village en question et puis Kongoussi, en tout cas, c'est un peu moins de 20 kilomètres.
Ça vous a pris combien de temps?
Une journée de marche.
Comment est venue la décision? Il y a eu cette attaque et à un moment, qui a décidé qu'il faut partir? Comment ça s'est passé?
Bon, c'est à l'unanimité, bon, les gens ont eu peur. En tout cas, on a tous eu peur. On a dit en tout cas, on a eu et ça a été fait qu'on ne sait pas. Est-ce que ces derniers ils vont revenir? Ils vont pas revenir, on ne sait pas.
Et qu'est-ce que vous avez pris avec vous?
Quelques bagages, on a pris quelques sacs, quelques nappes. Et puis, quand on est arrivé, en tout cas, on n'a pas encore pu enlever quelque chose comme ça avec quoi on peut venir avec.
Qui vous a accueilli à Kongoussi? Est-ce que les autorités vous ont reçu, vous fournissent du matériel pour dormir et aussi pour vous nourrir?
En tout cas, certains parents qui étaient à Kongoussi, en tout cas, ils nous ont accueillis. Bon, ils ont donné, en tout cas, pour le moment, le minimum pour nous débrouiller. Voilà, il y a des initiatives locales aussi. Bon, les jeunes gens, en tout cas, des volontaires, des personnes de bonne volonté qui, en tout cas, organisent, qui préparent le repas pour des gens et puis, bon, les donnent à boire.
Et les autres qui n'ont pas eu de parents pour les accueillir, vous avez leurs nouvelles où ils dorment?
Bon, il y a certains qui doivent avoir l'étoile en tout cas.
Si vous aviez un message adressé au gouvernement, qu'est-ce que vous avez envie de dire?
En tout cas, ce que nous souhaitons seulement, c'est en tout cas vraiment sécuriser la zone, déployer vraiment un renfort et un équipement vraiment à mesure d'assurer vraiment la population, puisque bon, il y a les récoltes qui sont toujours là, afin que les gens puissent en tout cas repartir, récolter et bon, pouvoir s'installer.
Bruno Ouedraogo, un déplacé joint à Kongoussi, au Burkina Faso. Politiques, religieux, chefs traditionnels et quelques jeunes combattants présentés comme des repentis ont plaidé pour la paix lundi à l'ouverture du grand dialogue national sur le conflit séparatiste meurtrier au Cameroun anglophone. Mais l'absence des leaders sécessionnistes laisse peu d'espoir d'y parvenir en 4 jours de travaux à huis clos. Ce dialogue présidé à Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre par le Premier ministre Joseph Dion Gouté a pour ambition de mettre un terme à la crise qui sévit dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest où vit la plus grande partie de la minorité anglophone du Cameroun. En République centrafricaine, grande marche hier à Bangui de la plateforme Ezigo Biani. Plusieurs centaines de personnes, 2000 selon les organisateurs, se sont mobilisées sur l'avenue Barthélemy Bouganda. Ces manifestants ont remis à la fin de la marche un mémorandum de sortie de crise aux autorités centrafricaines et à la communauté internationale. À Bangui, retrouvons Freeman Sipila, notre correspondant.
Malgré des appels au boycott lancés dans plusieurs quartiers de la capitale centrafricaine, le mouvement Ezigo Biani réussit à mobiliser plusieurs centaines de personnes dans la rue. Gervais Lakosso, coordinateur de ce mouvement qui regroupe la société civile et les partis politiques de l'opposition.
Il devrait avoir au moins 4 fois plus de personnes que cela, mais les gens ont manqué de courage. Vous avez vu, on s'approche de 2000 personnes qui se sont mobilisées pour cette marche. Et ça veut dire que les centrafricains savent braver les menaces, les des intimidations politiques.
Encadré par des forces de l'ordre, il est blindé de la MINUSCA. L'itinéraire initialement prévu n'est pas respecté. Gervais Lacosso.
Le ministre de la Sécurité publique a fait une sorte de demi-volte-face. L'absence du chef de l'État au pays n'est pas une raison pour changer l'itinéraire. Il ne connaît pas l'administration mieux que nous. Donc, le chef d'État n'est pas là, il a des collaborateurs.
Un mémorandum dit de sortie de crise est remis aux autorités centrafricaines et à la communauté internationale. Le mouvement Izingo-Viani revendique du gouvernement 12 choses, entre autres la mise en place d'un processus sérieux de désarmement, l'abrogation du déclinement des chefs de groupes armés à des postes de responsabilité de l'État et le démantèlement de toutes les barrières illégales dans le pays. Freeman Sipila Bongui pour VOA Afrique.
Merci Freeman. 7 millions de Tunisiens sont à nouveau appelés aux urnes. Ce sera le 6 octobre, cette fois, pour élire leurs députés, samedi donc, ce dimanche donc, plutôt. Deuxième scrutin législatif depuis l'adoption d'une nouvelle constitution en 2014. Troisième depuis la révolution de 2011 qui a chassé Zine El Abidine Ben Ali du pouvoir. Ce vote se déroule en un seul tour le 6 octobre, dimanche prochain. Il intervient 3 semaines après le premier tour de la présidentielle qui a débouché sur un duel surprise. Le magnat des médias, Nabil Karoui, emprisonné dans le cadre d'une enquête pour blanchiment et fraude fiscale face à Kais Saied, université ayant rassemblé un électorat hétéroclite allant de la gauche au plus conservateur. Les résultats préliminaires des législatives sont attendus le 9 octobre. L'armée américaine a annoncé lundi avoir tué 7 membres présumés du groupe État islamique dans une frappe aérienne menée dans le sud de la Libye, la 4e du genre en moins de 2 semaines. Cette nouvelle frappe menée dimanche en coordination avec le gouvernement d'Union nationale, GNA, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, porte à 43 le nombre de djihadistes tués depuis le 19 septembre par les forces américaines en Libye. Amnesty International a accusé aujourd'hui les États-Unis d'avoir tué 3 civils dans une frappe aérienne en Somalie en mars et de ne pas avoir enquêté au sujet d'informations selon lesquelles il s'agissait d'agriculteurs sans lien avec les insurgés islamistes. Selon l'ONG, son enquête a révélé que les 3 hommes tués le 18 mars dans le sud de la Somalie étaient des civils innocents et non des djihadistes, comme l'a affirmé le commandement militaire américain pour l'Afrique. L'AFRICOM n'a fourni aucune preuve que les 3 hommes tués en mars étaient des chebabs, affirme l'Organisation des droits humains. Ici aux États-Unis, sous la menace d'une procédure de destitution, Donald Trump a attaqué lundi les démocrates qui ont sommé son avocat personnel Rudy Giuliani de livrer des documents. Le Congrès est aussi passé à la vitesse supérieure dans la conduite de l'enquête pour l'impeachment. Les parlementaires démocrates ont envoyé leurs premières injonctions à comparaître, sommant le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, de leur livrer des documents nécessaires à leur enquête.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Missiles destructeurs, bombardiers, drones ultra rapides ou furtifs, la Chine a dévoilé aujourd'hui, pour ses 70 ans, les 70 ans du régime communiste, de nouveaux armements visant à combler son retard technologique sur les États-Unis. Le défilé militaire de ce 1er octobre a illustré la modernisation de l'armée voulue par le président Xi Jinping, qui veut faire atteindre un niveau de classe mondiale d'ici 2049. À l'armée chinoise pour le centenaire de la République donc populaire de Chine. Un manifestant hongkongais a été blessé par balle aujourd'hui à Hong Kong, où des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie sont descendus dans la rue, répondant à l'appel pour une journée de chagrin visant à perturber le 70e anniversaire de la fondation de la Chine populaire. Mobilisés depuis le mois de juin, les militants pro-démocratie ont bravé l'interdiction de manifester pour crier encore plus fort à l'occasion de ces célébrations leur ressentiment à l'encontre du régime chinois, dénoncer le recul des libertés et la violation, selon eux, du principe « un pays, deux systèmes » qui a présidé à la rétrocession de l'ex-colonie britannique à la Chine en 1997. Et pour terminer, la Corée du Nord a annoncé aujourd'hui qu'elle aurait samedi des discussions de travail sur le nucléaire avec les États-Unis qui viendront relancer le processus diplomatique 8 mois après l'échec du sommet de Hanoï. Les deux parties ont accepté d'avoir des contacts préliminaires le 4 octobre et des discussions de travail le lendemain, a annoncé la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères dans un communiqué divulgué par l'agence de presse.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.